Ces derniers temps, je me suis pas mal questionnée sur mon rapport à l'humour et l'élément déclencheur, ça a été l'histoire de ma vie, une série que je découvre 1000 ans après tout le monde, en l'occurrence The Marvelous Mrs. Maisel, dont la dernière saison est en train de sortir pour mon plus grand plaisir. Et pour vous la résumer, c'est l'histoire de Midge Maisel, une jeune femme au début des années 50, qui va se lancer un peu par accident, mais pas tout à fait, dans le stand-up. Il y a des événements personnels qui vont l'amener à monter sur scène et à prendre le micro. Et on la suit dans ses débuts balbutiants, dans toutes les galères qu'elle va rencontrer, toutes ses aventures aussi vers le succès. C'est très drôle, très bien écrit, et c'était pas gagné, hein, d'avoir des passages vraiment drôles de stand-up dans une série. Donc rien que pour ça, vraiment bravo à The Marvelous Mrs. Maisel, c'est vraiment trop bien. Et la finesse de ce personnage doit aussi beaucoup à son interprétation par Rachel Brosnahan, qui incarne du coup Midge dans une performance vraiment assez incroyable. Peu importe les saisons, elle est toujours dans cette espèce de jeu constant, très intense, très physique, très vivant, parce que le personnage de Midge est tout le temps en mouvement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a énormément d'énergie, qui passe d'une émotion à une autre de façon très rapide, qui a ce petit ton impertinent qui franchement fait tout le personnage. Et par plein d'aspects, je me retrouve un petit peu dans ce personnage de Midge. Alors, c'est très égocentré de dire ça, mais avouez qu'on a tous des petits personnages comme ça. Soit on retrouve des petits traits de caractère à nous chez eux, et on aspire à être comme eux, ou en tout cas, on les trouve vraiment super. C'est des modèles un petit peu. Il y a cette logique-là de représentation. Ça flatte au passage. Enfin voilà, il y a toujours des personnages comme ça. Et en l'occurrence, donc Midge, comme je disais, c'est un personnage qui ne s'arrête jamais. Elle parle tout le temps, genre vraiment non-stop. Elle a tendance à voir le bon côté des choses et puis d'un coup à piquer des énormes coups de déprime. Bref, elle me parle beaucoup, c'est une vraie drama queen et j'aime énormément ce personnage. Et je me suis surprise en regardant la série à me dire à plusieurs reprises, elle est super drôle et j'aimerais avoir sa vivacité d'esprit et être aussi marrante que cette meuf. Et c'est là qu'est partie ma réflexion sur l'humour. À partir du moment, je pense, où le regard des autres a une réelle importance pour la personne qu'on est ou qu'on pense être, et qu'on l'assume d'ailleurs, l'humour s'impose un petit peu de lui-même. On tend à être drôle pour susciter une forme d'admiration, montrer son intelligence, créer de l'émotion chez les autres, leur apporter un autre regard sur la vie, enfin, être soit acteur de quelque chose chez les autres, et de procurer de l'émotion chez les autres, qui du coup nous revient en fait en miroir. Il y a un petit peu ce truc-là, je trouve, dans l'humour, et je le vois comme une petite pointe de sel qui donne du goût, en fait. C'est franchement pas facile d'arriver à cristalliser des idées, des moments de vie, des pensées, de l'imagination sous forme de petits grains blancs, là, comme ça, à disséminer un petit peu partout. Et je sais pas si on en est tous capables au même niveau. Déjà parce qu'il y a rien de plus personnel que l'humour. Il y a déjà plein de formes d'humour qui existent, l'humour noir, l'humour beauf, l'absurde, les jeux de mots, ma grande passion, l'humour de son, voilà, les chiquiflutes, les trucs comme ça, moi c'est vraiment des trucs qui me fera rire jusqu'à ma mort. Il y a le comique de situation, il y a de l'humour qui va passer à travers des paroles, à travers une gestuelle, le corps, un malaise, un silence, un regard, il y a vraiment plein de formes d'humour qui existent. Et du coup, c'est très dur déjà de définir ce que c'est l'humour, et encore plus d'en avoir le sens. Si on garde le sel comme image de l'humour, il y en a qui ont tendance à faire tomber la salière, et c'est vraiment pas bon. Donc c'est vraiment difficile et à produire et à doser, et à l'inverse, le stand-up n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Tout le monde veut se lancer, et il y a peu d'élus derrière, parce que c'est pas parce qu'on fait rire nos potes en soirée qu'on va être drôle sur scène. Et encore une fois, ce que moi je trouvais drôle, vous allez peut-être trouver ça nul et inversement. Mais je me demande si, au-delà du fait que voilà, c'est une pratique de la scène comme une autre, avec une adresse directe au public qui fait quand même la particularité du stand-up par rapport au théâtre, classique en tout cas, je me demande si les réseaux sociaux et internet ont pas aussi une part de responsabilité dans le fait que tout le monde veuille se lancer dans le stand-up, dans le sens où ça a rendu beaucoup d'activités accessibles. Voilà, on peut en avoir les codes, on peut avoir plus accès à des contacts, c'est plus simple, ça c'est super. Et en même temps, c'est aussi une logique de toujours se mettre en scène, de toujours vouloir briller, être admiré, regardé par les autres. Vraiment, je reste persuadée que l'humour au sens stand-up, enfin monter sur scène, c'est parler aux autres. Ça, c'est les bons stand-uppers, mais derrière, quand on parle aux autres, c'est aussi pour parler à soi. Il y a vraiment cette relation de soi qui est hyper importante, et pour certains, c'est plus du juste se montrer qu'autre chose. C'est là où je pense que il n'y a pas tout le monde qui est bon et qui est drôle. C'est un peu comme les gens qui se prennent pour des photographes pros parce qu'ils appliquent juste un filtre noir et blanc sur des photos de meufs en lingerie. Enfin, ça demande plus que ça, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'humour est plus mis en avant que jamais, j'ai l'impression en tout cas. Et pour autant, il n'est pas plus simple à maîtriser. J'en suis même venue à me demander si c'est pas parce qu'on va droit dans le mur qu'on a besoin de rire autant en ce moment, mais vraiment le rire nerveux avant le dernier choc et une forme de chant du cygne, genre c'est la fin, après paf, plus de société, on a bien ri, merci, au revoir. C'est très sympathique, très optimiste, je vous ai dit, je suis comme Midge, voilà, j'ai un grand sourire et je vois la vie en rose. Mais je me suis demandé si ça, c'était pas un petit peu ça aussi qui faisait que l'humour avait une place aussi importante dans la société telle qu'on l'a aujourd'hui. Et de mon côté, pourquoi est-ce que, en voyant Midge, je me suis dit, j'aimerais être comme elle, j'aimerais avoir moi aussi ce sens de la petite phrase. Et est-ce que je l'ai pas déjà un petit peu ? Dans ma famille, il faut savoir que c'est mon plus petit frère qui a le rôle du comique. On a tous des rôles, voilà. Et moi, j'ai pas ce rôle-là. C'est mon petit frère et effectivement, il est très drôle. Et surtout, il a un très bon sens de l'imitation et il trouve des analogies vraiment qui sont sorties d'un tiroir magique dont lui seul a la clé. C'est assez impressionnant. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas du côté de ma famille que je vais pouvoir savoir pourquoi est-ce que je veux avoir ce besoin de faire rire, parce que c'est pas quelque chose que j'ai trop travaillé avec eux. Alors j'ai regardé du côté de mes amis et de mes amours au passé, et là déjà c'est un petit peu plus visible, je suis pas hilarante, mais j'aime bien faire rire. Et le fait d'être drôle, on me l'a dit, mais toujours avec un petit peu de surprise et d'étonnement, comme si c'était pas normal que je puisse être drôle. En fait j'ai beaucoup entendu dans des groupes d'amis ou à des soirées, des gens dire d'un mec qu'il était drôle, vraiment à 90%. Si ce n'est plus, très rarement aux meufs qui étaient drôles dans le groupe. La réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, on reste hyper bloqué sur 4 catégories de meufs. En gros, il y a la belle, la drôle, l'intelligente et la gentille. Et elles s'excluent toutes les unes les autres. Donc si t'es belle, tu peux pas être drôle. Si t'es intelligente, tu peux pas être drôle. Si t'es gentille, tu peux pas être drôle. Si t'es moche, tu peux être drôle, y a pas de problème. Et ça va avec le fameux « t'es vachement drôle pour une meuf ». Pire phrase, vraiment, arrêtons avec ça. Ou encore le fameux « Ah non mais t'as pas d'humour » qu'on dit généralement à des femmes, alors que c'est dans une situation soit de harcèlement de rue, soit une remarque vachement offensante en fait, qui n'a pas lieu d'être, soit carrément une agression, enfin à aucun moment c'est drôle. Mais voilà, il y a vraiment ce truc là de... Chez les meufs, elles peuvent déjà être moins facilement drôles parce qu'il y a ces grosses catégories, et en plus de ça, elles n'ont pas cet humour puisque... ce qui fait rire absolument tout le monde, oh là là, elles n'ont pas la petite finesse d'esprit pour le saisir. Ce qui est totalement faux, bien sûr, et je fais des grosses généralités, mais c'est quand même des trucs que j'ai vachement entendu autour de moi et qui m'énervent à chaque fois parce que, en fait, l'humour, il n'a pas à être genré. Il n'y a pas un humour de fille, celui qui parlerait de vulve, de règles et de princesse, alors que le vrai humour parle de couilles. Enfin, au bout d'un moment, ça devrait pas avoir lieu. C'est parler de la vie, parler de soi, une grosse partie de l'humour. Notamment là je reste dans le prisme du stand-up parce que dans l'absurde par exemple beaucoup moins, mais parler de sa vie, parler de soi, c'est normal du fait de parler aussi via son expérience et donc via son genre, mais ça devrait pas être un critère, c'est pas ça qui définit l'humour en question. Et des blagues de couilles peuvent faire rire des femmes et des blagues de chatte peuvent faire rire des hommes, normalement si on a un petit peu de logique au cerveau ça fonctionne. Du coup, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'humoristes femmes qui déjà osent monter sur scène, rencontrent du succès, passent à la radio, enchaînent les tournées, enfin, c'est cool, mais dans les productions culturelles, les femmes drôles sont encore trop souvent juste drôles et associées à d'autres super caractéristiques comme meuf grosse, meuf moche, et à l'inverse, la meuf belle, c'est la meuf bonne, et ça s'arrête là. C'est quand même encore un travail, ou alors ça va être la meuf badass aussi. Maintenant elle peut se rajouter un petit peu à ces catégories parce qu'elle commence à émerger dans certaines productions culturelles. La femme badass, celle qui va recaler, qui a un peu pince sans rire, qui est fonceuse, mais elle n'est pas drôle, elle est très sérieuse, elle est trop sérieuse. Il y a vraiment ce truc-là, et l'humour, en tout cas, attaché aux femmes, c'est toujours un peu compliqué. Et j'ai bien espoir que ça change quand je vois des productions comme The Marvelous Mrs. Maisel, où justement ça vient un petit peu bousculer tout ça, puisque c'est une héroïne, son agent est une femme, ça se passe dans les années 50, donc forcément il y a aussi un bon regard sur le patriarcat et la place de la femme à l'époque, et la place de Midge dans tout ça. C'est vraiment bien amené, donc encore une fois, ça, si jamais ça vous intéresse, regardez cette série parce qu'elle est vraiment très très cool. Et puis faire rire les autres, franchement, je trouve que c'est déjà un challenge en soi, on n'a pas besoin de rajouter par-dessus une question de contrainte physique, anatomique, voilà, qui avantagerait un camp au détriment d'un autre. Parce que, évidemment, là, moi je parlais de genre, mais en fait, il y a aussi toutes les questions de diversité qui peuvent rentrer en compte, et là c'est pire, quand on regarde la place des personnes racisées ou en situation de handicap ou autre, déjà donc il y en a beaucoup moins, et en plus qu'on trouve drôle de façon, je vais mettre des gros guillemets, universelle, parce qu'on s'adresse à un public, enfin qui rencontre le même type de succès, c'est encore moins visible, c'est encore plus galère, et dans la sphère privée c'est un peu pareil, hein, ça se ressent quand même... Je trouve ces disparités. C'est d'ailleurs drôle de constater que dans l'humour, certaines blagues très plébiscitées, ce sont des blagues à chaque fois sur les femmes, sur les minorités, sur tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas un homme blanc, hétéro, lambda. Et là j'en entends qui se disent « Oh là là, mais la wokiste, on peut plus rien dire !» Alors franchement, si vous étiez drôle, si. On peut faire des blagues sur énormément de choses tant que c'est fait avec intelligence et respect. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas charpentier, vous continuez à faire des blagues sur les poutres apparentes. Peut-être faut changer de registre. Bref, c'est dur de faire rire, et franchement, celles et ceux qui arrivent, ils ont tout mon respect. Que ce soit des groupes de personnes qui se tendent des perches pour faire de l'humour à plusieurs, ça c'est trop bien, ça fait des super bonnes dynamiques, comme des personnes seules qui y vont. Et ceux qui, pour moi, arrivent encore au-dessus et que je... trouve admirable au travers, notamment donc encore une fois de cette série Mrs. Maisel, c'est les gens qui arrivent à être drôles à travers l'écrit, qui sont drôles dans leur écriture, et ensuite c'est incarné et porté par des personnes. Évidemment le travail de la personne qui porte ses propos est incroyable et fait une grosse partie du taf, mais j'aime aussi beaucoup le travail en amont sur l'écriture. Ça permet d'avoir le temps de maturer un peu plus des vannes, d'ajuster le ton, de donner aussi du poids aux mots. Récemment, j'ai rejoint un atelier d'écriture et je me suis aperçue que je cherche sans cesse à faire rire dans mes textes. Alors, souvent, ça rate puisque les gens ne comprennent pas quand je lis, mais ça veut pas dire que je me prends pas au sérieux, c'est juste que j'ai besoin de glisser dans mon texte toujours une petite vanne, une petite phrase qui fait mouche, j'aime bien. Et j'ai cette satisfaction déjà de moi me faire rire au moment où j'écris. Et ça, je pense que dans l'humour, c'est trop important de déjà être son meilleur public en fait. Je dis depuis le début que c'est hyper dur d'être drôle. Et que je pense qu'effectivement, ça se travaille et que tout le monde n'est pas forcément drôle. En tout cas, de façon plus universelle. Par contre, si on est soi-même son meilleur public, déjà, on a tout gagné. Moi, je me fais beaucoup rire. Et à partir de là, tout va bien. Une amie m'a même dit que je devrais plus incarner mes textes d'ailleurs et vraiment en faire soit des vidéos, soit des audios en mode one woman show. Et en fait ça m'intéresse pas trop, moi ces textes là que je trouve effectivement donc marrants, j'ai plus envie de les voir dans la bouche d'autres personnes, de les voir porter. Et je pense que c'est aussi ça l'humour, c'est de savoir quand c'est à soi d'être porteur du message et donc à soi d'être drôle directement, ou si c'est aux autres de le faire et de le faire mieux et d'apporter leur touche et de faire un humour encore une fois en commun. Tout à l'heure je mentionnais rapidement la dynamique de groupe de quand on se tend la perche les uns les autres et tu peux rebondir sur ce qu'a dit quelqu'un et tu crées une espèce de collectif en fait drôle. C'est pas évident non plus, mais il y a ce truc de partager des idées et je pense que ouais, si on veut avoir un humour riche, c'est aussi important d'écouter les autres, de s'inspirer des autres tout en mettant soi au maximum. On en revient à l'essence même du podcast en lui-même. C'est de se dire que ce qu'on a de plus intime, c'est ce qu'on a de plus universel, c'est ce que fait très bien le stand-up typiquement. Même sur de l'humour, encore une fois, de situations absurdes ou autres, d'être à l'écoute de son environnement pour arriver à saisir aussi les indices qui viennent du public, quand il y en a un. Il y a toujours un public d'ailleurs, parce que l'humour, ça fonctionne beaucoup, encore une fois, avec le regard des autres. Même si c'est pas un public dans une salle, c'est un public. Mais d'avoir ce truc de faire attention. Et c'est ce qui vous permettra de devenir la baleine, productrice de sel en grande quantité, mais de pouvoir en mettre des petites touches au bon moment et pas vraiment verser le pot dans un plat et dégoûter absolument la terre entière. Je pensais pas finir cet épisode sur du sel, mais pourquoi pas. Petit placement de produit au passage, la baleine, je vous envoie mon rib. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club sur Spotify et Apple Podcast, me laisser 5 étoiles, un commentaire, partager l'épisode autour de vous, écouter les autres épisodes aussi, et venir m'écrire sur les réseaux sociaux @clo-clo-club sur Instagram et sur TikTok pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, bye!